Bonjour, bienvenue à ce premier culte de l'été, hein, parce que l'été a passé cette semaine une fois. Et puis bonjour aux zoomeurs et zoomeuses. Je me réjouis de partager quelques réflexions avec vous ce matin. Puis je dois dire, je suis toujours bluffé quand j'entends la louange. Pourtant, c'est pas concerté en disant, mais ben voilà, quelque part, il y a des choses similaires. Alors je vous lance un défi de trouver les liens entre la louange et puis le message. On fait un concours à la fin? Non, on verra, ça dépend du temps qu'on aura. Voilà. Alors c'est vrai, dans mes derniers messages, j'avais souvent parlé d'hommes, hein, d'Abraham, de Gédéon. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi Sarai. Et puis, ben voilà, je suis responsable du groupe des hommes de l'Église. Je me dis, ouais, non, mais je ne vais pas parler de mecs aujourd'hui. Je vais prendre comme exemple de femmes. Et puis, c'est vrai que peut-être juste vous raconter comment moi je prépare des cultes. Alors souvent j'ai une idée, j'ai quelque chose comme ça sur le cœur, et puis j'ai besoin de le travailler tout le temps. Alors j'y pense régulièrement, je fais des liens avec des versets, des idées que je reçois. Et puis, dans le courant, je sais plus si c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, je réfléchissais, j'étais sur le pod, hein, donc ça turbinait. Puis à un moment donné, ça m'arrive parfois comme ça, tout d'un coup, je suis saisi d'une émotion. Alors c'est assez, ouf, c'est assez difficile à décrire en tant que tel, mais moi j'appelle ça comme ressentir l'amour du Christ pour les autres. Et puis, voilà, j'étais là sur le pot, dans l'oreille générale, j'ai les yeux qui commencent un peu à rougir, à couler, alors ça fait des fois un petit peu peut-être bête, mais voilà, je m'en fiche. Et puis à ce moment-là, c'est vrai, en préparant ce culte, j'avais vraiment l'impression que le Christ me disait que les femmes ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Et je suis même persuadé que ici ou à la maison, il y a deux ou trois femmes qui ont vraiment besoin d'entendre aussi ce matin que Jésus te dit « Tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. » Alors, je ne vous cacherai pas. De toute façon, Christ, son amour, il est là pour tout le monde. Et puis, il nous le dit aussi à tous, hein. Donc, même si peut-être tu le sens pas particulièrement, mais je suis persuadé, le Christ, il est en train de dire maintenant à 8 milliards de personnes en même temps, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. J'ai même envie de dire, tu es mon fils ou ma fille préférée. Mais il le dit en même temps à 8 milliards de personnes. Donc, il n'y a pas de jaloux, mais on a vraiment cette possibilité-là. Alors, c'est vrai que c'est pas directement le sujet de mon message. Je voulais juste commencer en fait avec deux réflexions. La première, c'est vrai que je vais partager avec vous quelques témoignages de choses, d'événements qui me sont arrivés. Et puis j'aimerais juste lancer deux avertissements, hein. C'est comme le petit carré, la télé qu'on a en haut à droite. Tout d'abord, c'est ne croyez pas sur la base des exemples de croire tout d'un coup que moi j'aurais tout compris. Donc, je suis en train de découvrir aussi des choses, et j'ai juste envie de les partager, pas avec un esprit, ou plutôt avec un esprit d'humilité, en disant, chez moi, ça fonctionne comme ça, j'ai pas encore tout compris, mais j'ai surtout envie de te dire, essaye de ta manière aussi de fonctionner comme ça. Puis la deuxième chose aussi, c'est que si ça s'est passé pour moi comme ça, ça veut pas dire que ça se passera exactement de la même manière pour toi. J'ai envie de dire, faut que tu découvres toi-même, finalement, ton chemin, ta manière de faire. Parce que si tu dis, ça marchait comme ça pour Philippe, puis que tu veux l'appliquer, tu es en train de mettre Dieu dans une boîte. J'ai envie de dire, tu fais de la religion, d'une certaine manière, en disant, Dieu, c'est comme ça. Puis vous verrez, mes exemples, parfois, ils vont vous paraître loufoques. C'est vrai que si on regarde comme ça dans la Bible, il n'y a pas forcément des choses qui pourraient ressembler. Mais j'ai juste envie de dire, Dieu est un Dieu créatif, hein, donc il a fait la création, il a une telle imagination. Donc c'est de se dire, s'il y a des choses peut-être loufoques qui arrivent à Philippe, accepte peut-être aussi les choses loufoques qui pourraient arriver à toi. Voilà. En fait, le sujet de mon culte, c'est un peu une suite du culte de Pentecôte. Donc Florence nous avait parlé, nous avait dit que l'Esprit vivait en nous, puis que c'était pas une option. Donc il était là, et puis Florence nous encourageait justement à écouter ou d'entendre la parole de l'Esprit ou la voix de l'Esprit. Puis j'ai vraiment envie de partager autour de ce thème avec vous aujourd'hui, d'écouter l'Esprit. Alors pour cela, Je veux lire avec vous dans Luc 10, les versets 38 à 42. Alors, j'ai que quatre versets. Je sais pas si je tiendrai une demi-heure avec quatre versets uniquement. Si, si, je veux pas vous en faire. Alors, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Vous la connaissez. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Notre pauvre Marthe, je me suis imaginé qu'elle va sûrement se retourner dans sa tombe, dire « Ah non, encore un dimanche, on va casser du sucre sur mon dos. Hein, » parce que vraiment, vraiment la vilaine, le mauvais exemple, vu qu'on veut tous être des maris d'une certaine manière. Elle, la bosseuse, ben, c'est vrai que, parfois j'ai envie de dire, c'est vrai que s'il n'y avait pas de bosseurs, que des contemplatifs, ben, des fois les choses ne se feraient pas non plus. Ah, donc finalement, peut-être, ouais. C'est pour ça que je fais juste un lien, c'était pas prévu comme ça, mais c'est dans la taille des arbres fruitiers. En fait, pour que les arbres portent le plus de fruits, leurs branches doivent être à 45 degrés. C'est-à-dire que si elles étaient comme ça, hein, donc si elles étaient tout le temps en position de louange, ben elles portent des fruits, mais pas forcément beaucoup. Et par contre, si elles ont les branches comme ça non plus, porte pas de fruits non plus. Vous savez pourquoi 45 degrés? Parce que c'est le meilleur angle pour avoir en fait le soleil qui permet justement aux fruits de pousser. Juste comme ça, un peu un élément, mais voilà, c'était hors sujet. Et puis cette pauvre Marthe, en plus de ça, elle s'en prend plein la figure, hein, parce que quand elle demande l'intervention du Seigneur en lui disant, tu pourrais pas? Il dit, ben non, Marie, elle fait juste, puis pas toi, hein, grosso modo. Alors je sais que Jésus, je suis sûr que quand il a regardé Marthe dans les yeux en lui disant, il avait un regard d'amour pour Marthe, ça c'est clair, j'en suis persuadé. Donc, mais voilà, ça devait pas être forcément très simple comme situation. Et puis quelque part, Marthe, ben je peux pas la critiquer parce que je pense que je suis Marthe. Allez, 99,9% du temps, de mon temps, je suis en fait comme Marthe. Donc condamner Marthe, ça serait finalement un peu me condamner aussi. Donc c'est peut-être pas la bonne solution. Parce que en y réfléchissant, Marthe, elle avait beaucoup de qualités. Je suis persuadé qu'elle aimait Jésus. Qu'est-ce qu'il prouve? Ben finalement, elle accueille Jésus dans sa maison. C'est pas Marie qui l'accueille, hein, c'est dans la maison de Marthe. Donc elle a aussi invité sa frangine, elle l'a peut-être regretté hein, juste après, mais elle a invité sa frangine, elle a peut-être invité aussi, alors c'est vrai que le texte il est pas très clair, on ne sait pas si les disciples étaient présents ou pas, ou si ils étaient justement avec les 72 en train de guérir les malades et autres, mais là en tout cas accueilli du monde, et puis ben, elle s'est mise à l'ouvrage. Donc, c'est une femme qui était douée d'une grande hospitalité, elle était serviable. Je suis sûr qu'elle le faisait aussi de bon cœur. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche chez elle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'il y a des fois vous faites des tâches ménagères, vous le faites avec légèreté. Ça vous pose même aucun souci. Vous le faites peut-être parce que ben voilà, vous dites ben je le fais par amour pour mon conjoint, ma conjointe, ou je le fais pour mes enfants. Puis si vous avez même un certain plaisir à le faire. Puis la même tâche, un autre jour, ou peut-être même quelques minutes après, tout d'un coup, ça devient d'une telle lourdeur. Vous êtes en train de faire la vaisselle, puis vous avez votre adolescent mollasson devant son jeu vidéo. Hein? Par exemple, c'est du vécu. Hein? Ou même votre épouse ou votre époux, hein, qui est là, puis tu dis, ouais, j'ai déjà bossé toute la journée, puis là, je vais encore faire. Puis finalement, on attend finalement qu'on vienne vers nous, puis on dit, oh, mais t'es le meilleur, hein, que tout le monde soit comme ça, reconnaissant, etc. Puis plus j'attends, bah, moins ça vient, naturellement. Puis il suffit généralement juste d'une petite étincelle, comme ça, quelque chose même qui est pas forcément voulu ou pensé finalement de manière méchante. C'est toujours les mêmes qui bossent ici, etc. Je sais pas. Chez moi, ça m'arrive. Je sais pas comment c'est chez vous, le cas échéant. Et je crois que Marthe, elle était justement un peu dans ça. Il y avait cet amour pour Christ, puis en même temps, peut-être des besoins qui n'étaient pas comblés sur le moment. Ce besoin qu'elle avait, ben, peut-être d'être reconnue pour ce qu'elle faisait. Et puis, ben, ça n'a pas vraiment été reconnu à ce moment-là. Puis passons à Marie. Hein, c'est la petite intello de la classe, la première de la classe, qui fait tout juste « ce qui nous hein ». On les connaît comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Si, en fait, elle a fait deux choses. Il a dit qu'elle s'est assise aux pieds du Christ et puis qu'elle a écouté. Donc, elle a fait ces deux choses. Et moi, je pense que dans le comportement de Marie, il y a comme une clé pour nous aussi, pour entendre, parler en fait l'esprit, savoir quand est-ce que l'esprit nous parle. Puis je me suis noté ici que, en fait, pour entendre, il faut que je m'arrête et que j'écoute. Alors, je vais pas vous faire la différence entre écouter et entendre, hein, vous la sentez cette différence, même si comme Jean-Pierre j'ai aussi ouvert mon dictionnaire pour préparer le culte, donc au moins dans deux familles chaudefonnières, le petit Larousse a été dépoussiéré ou le petit Robert a été dépoussiéré. Voilà. Mais c'est vrai que si je veux entendre, il faut que je m'arrête et que j'écoute, qui sont donc des actes quelque part volontaires. Hein, entendre, il y a quelque chose d'un peu d'involontaire, d'une certaine manière. Donc, si je veux entendre cette voix, il faut que, par contre, dans un premier temps, je m'arrête et que j'écoute. Mais ça veut dire quoi, s'arrêter? Marie, justement, il est dit qu'elle s'assoit aux pieds du Christ. Et puis, j'ai trouvé un verset parallèle qui parle aussi de cette notion de s'asseoir aux pieds. C'est dans Actes 22, le verset 3. Voilà, mes petits billets. C'est en fait que Paul parle de lui-même. Et puis il dit, moi je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. Donc on s'imagine le disciple Paul, au pied de Gamaliel, donc qui était un grand religieux juif. Donc on peut s'imaginer ce jeune gars qui était au pied de son maître et qui écoutait attentivement, qui buvait littéralement hein, les paroles de son maître à penser. Et puis il dit après lui-même, j'étais plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Hein, donc il était vraiment passionné par ce que disait son maître. Et c'est à mon avis, aussi un peu la même chose qui était pour Marie. Donc, elle était au pied du Christ et elle écoutait de manière passionnée ce qui se disait. Alors, ça veut dire quoi, s'arrêter? Alors, c'est vrai que parfois, peut-être dans notre quotidien, quand on veut s'arrêter, on se fie plutôt à Matthieu 6:6, qui dit... Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc il y a cette notion de s'isoler. Christ aussi, il s'isolait, il partait souvent tôt le matin, il allait à un endroit où il n'y avait personne. Mais s'arrêter, c'est plus que ça. Parce que je peux fermer à double tour ma porte, je peux baisser les volets, mais j'ai mes idées qui vont s'évader peut-être à gauche, à droite. Et puis, je vais tout d'un coup commencer à faire des films ou à réfléchir plein de choses. Donc, même si je suis isolé, ça ne sera pas suffisant pour m'arrêter vraiment. Il faut vraiment se déconnecter. Et puis, j'utilise vraiment ce terme de se déconnecter qui est comment dire ça? En tout cas, connecter est plutôt un mot qui est vraiment à la mode, mais où on remarque qu'on a vraiment besoin de se déconnecter, de tirer la prise, effectivement. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos natels, non, je voudrais dire nos smartphones, on est tellement vite connecté avec tout, on est bombardé d'informations, on est finalement invité tout le temps à avoir finalement quelque chose en tête et de ne pas pouvoir s'arrêter. Et parfois, c'est vrai que ça crée du stress et tout, mais moi je pense surtout que ça nous empêche de nous arrêter et d'écouter ou d'entendre l'essentiel. Pour moi, s'arrêter, c'est une disposition de cœur ou du cœur. C'est quelque part d'entrer dans le présent, le maintenant. C'est d'une certaine manière sortir du passé, qui sert à rien, de rabâcher éventuellement le passé. Puis c'est de laisser côté aussi le futur. Puis c'est vraiment d'être là, de laisser ses soucis de côté et d'être centré sur le moment présent. J'ai marqué Luc 8, 14, je ne sais plus pourquoi. On va voir, c'est sûrement pour centrer, pour ça. Ah oui, pour illustrer cela, dans Luc 8, c'est la parabole du semeur. Et puis, dans le verset 14, c'est ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. C'est vraiment dans cette notion-là que, quelque part, de s'arrêter, c'est sortir de ses soucis, de ses choses, du moment et de vraiment se concentrer sur le moment présent. Puis pourquoi se concentrer sur le présent? Alors moi, j'y vois deux choses. Tout d'abord, c'est parce que je suis persuadé que Dieu est un Dieu du maintenant. C'est maintenant que Dieu, il a envie d'être avec toi. Alors je suis persuadé qu'il a été avec toi, ça peut t'aider aussi, mais c'est maintenant que les choses se passent entre Dieu et toi. Et puis alors ça va aussi être plus tard, naturellement, parce que Dieu t'accompagne. Mais ne t'attends pas à ce que Dieu fasse, je sais pas comment dire. Oui, Dieu, il veut agir avec toi maintenant. Et puis, il va pas te dire, ah, tu verras, dans 3 ans, ça ira mieux. Non, c'est maintenant que Dieu veut construire les choses avec toi. Et puis, un deuxième élément, pourquoi être dans le présent? Parce que l'esprit est quelque chose j'ai appelé ça de volatile. D'ailleurs, dans Jean 3 à 8, la discussion, entre Jésus et puis Nicodème, il est dit, alors ça, là, j'ai pris la version, la nouvelle français courant qui dit « L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Donc, c'est quelque chose qui est là, le vent, hein, il est là. Donc, il faut que tu sois présent quand il y a le vent qui est là pour finalement saisir. Ah, donc, un marin, hein, sur son voilier, il doit être attentif. Où est-ce qu'il y a le vent? Hein, donc il y a quoi? Il y a une dizaine de jours, il y a eu le bol d'or. Ils n'ont pas eu beaucoup de vent à certains endroits. Donc ils devaient être attentifs. Hein, donc ceux qui ont gagné, ils avaient même des météorologues sur Terre qui leur disaient « Ah ben là, il y a bientôt du vent qui va arriver, etc. Donc préparez-vous à. » Parce que effectivement, je pense que l'esprit, il souffle. Et c'est à toi de le saisir maintenant, quand il est là. Jean-Pierre, on a touché un mot aussi dans la louange, mais c'est vrai, c'est cette notion dont on est souvent finalement submergé par des pensées. On est en fait quasi toujours en mode, comment on va appeler ça, quoi, finalement? En mode inconscient, d'une certaine manière. On fait beaucoup de choses sans avoir vraiment la conscience de ce qu'on fait. Ça va même jusqu'à manger. Vous avez déjà remarqué que finalement, on mange, hein? Parce que, voilà, c'est l'heure, on a faim, etc. Mais on s'en rend des fois même plus compte du goût des aliments. Moi, je m'amuse le matin, je me prends toujours un yogourt moka. Puis c'est vrai que des fois, quand je suis un peu stressé, c'est du genre doux. Puis des fois, juste me dire, non, maintenant, tu prends le temps de goûter. Ah, mais est-ce que c'est bon, un yogourt moka, quand tu prends le temps de le goûter? Hein? On a deux fans là, oui. Donc tu prends ta première cuillère, puis tu sens le goût du café, hein, ce goût. Alors moi, j'aime pas trop le café, mais le yogourt moka, ça va, j'aime bien ce goût du café. Donc c'est vrai que la question, c'est de se dire, mais quand est-ce que c'était la dernière fois où tu t'es concentré sur le moment présent? Hein, même dans un moment où tu dis, ah ouais, là, c'était bon, je me suis offert une petite pause. Ouais, mais dans ta pause, est-ce que tu n'étais déjà pas en train de préparer le boulot que tu allais faire après? Ou tu t'es juste contenté, je suis là, je fais ma pause, je bois mon café, et puis, voilà, je n'attends rien d'autre. De se concentrer sur ce que je suis en train de faire maintenant, peut-être ressentir, de se dire, mais qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, j'ai envie de dire de ne penser à rien. Des fois, je crois qu'on aurait besoin, dans notre monde occidental, qui est très cartésien, des fois de mettre un peu sur pause notre cerveau, en tout cas nos pensées. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il ne faut pas que ces pensées nous dirigent. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a dit, tu ne peux pas empêcher de penser, mais tu peux ne pas croire ce que disent tes pensées. Donc c'est d'une certaine manière de sortir des fois de ce moment de réflexion. Alors c'était quand la dernière fois, ou peut-être tu t'es pris juste ce temps-là? Avec beaucoup de chance, peut-être tout à l'heure pendant la louange. Je pense que la louange sont des moments où tu peux débrancher de tes pensées et te concentrer sur Dieu, sur ce qu'il veut te dire. Alors, c'est pas toujours évident, parce que nos pensées, elles reviennent vite, tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, mince, il faudra encore que, et puis ci, et puis ça. Mais la louange peut être ces moments où tu peux te concentrer sur le moment présent. Et puis juste maintenant, tu fais quoi? Tu penses à quoi? Est-ce que tu es dans le moment présent? Ou est-ce que tu prépares déjà ton dîner? Ou peut-être ton excursion de cet après-midi? Tes pensées, elles vont où? Moi, j'essaye le matin, quand je vais prendre mon bus, de prendre le temps d'observer autour de moi. Alors, c'est vrai que le bus, je sais, il est à 6h49, donc faut pas que je le loupe. Donc c'est vrai qu'on pourrait être stressé et puis dire comme ça. Une fois juste de dire non. Alors je regarde actuellement, c'est simplement magnifique parce que c'est le lever du soleil. Donc des fois juste contempler un moment le lever du soleil. Ou alors le chant des oiseaux le matin, quand il n'y a pas encore le bruit de la ville. Puis juste d'être conscient, puis de dire, tiens, cette fleur, elle n'était pas à l'arrière. Donc d'être juste présent. Et des fois dans ces moments-là, d'avoir une pensée pour une personne ou l'autre, pris un moment pour elle, mais c'est simplement d'être là, je ne suis pas en train de prendre mon bus, je ne suis pas encore au boulot, je suis là, de se centrer sur soi. Ou j'essaye des fois aussi de le faire au feu rouge pour piétons. C'est vrai qu'en tant que piéton, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait quand le feu il est rouge? On regarde à gauche, à droite, puis s'il n'y a rien, on y va. Puis moi, des fois, je me dis, ok, maintenant, tu t'accordes cet arrêt, et tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi. Qui sont les gens que tu rencontres autour de toi? Qui est là? Des fois, c'est juste ce petit moment qui font du bien aussi. D'être nouveau présent. Ou alors, là, j'ai dû penser à Martin. Je me souviens quand il est arrivé en Suisse, il m'avait dit un jour, « Vous, les Suisses, vous êtes vraiment des fous. Vous n'arrêtez pas de marcher sur les escaladors, sur les tapis roulants. » C'est vrai que j'ai pensé à lui la semaine passée, parce que effectivement, comme bon Suisse, je marchais sur mon tapis roulant, et je me suis dit, non, maintenant, tu t'arrêtes et tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas encore en train de faire ta liste de commissions, etc. Tu prends juste cet instant-là. Je ne veux pas dire qu'à tous ces instants, Dieu me parle forcément, mais ça donne, à mon avis, l'opportunité à Dieu de me rendre attentif. Tiens, cette dame-là qui est en train de faire la manche à la gare, je l'avais jamais vue. Ou bien si je l'avais vue dans mes pensées, je voulais surtout pas qu'elle me dérange, qu'elle m'apostrophe, donc je regarde de l'autre côté. Mais peut-être Dieu voulait te dire quelque chose aujourd'hui. Te dire, mais est-ce que tu peux, peut-être lui payer un sandwich ou quelque chose. C'est d'être simplement ouvert à ce qui se passe autour de toi et de laisser l'esprit, s'il a quelque chose à te dire à ce moment-là, qu'il puisse te le dire et que tu puisses l'écouter. Allez, mon premier exemple loufoque. Moi, il y a des moments que j'apprécie énormément le matin, où j'ai vraiment l'impression d'être en communion avec Dieu. Alors, en règle générale, je suis seul, je ne suis pas forcément enfermé, mais je viens de faire quelques exercices physiques. Des fois, le matin, je me dérouille, quelques pompes, etc. Et des fois, juste après, sur mon tapis, je me couche un moment sur le dos. Alors, il y a des moments, des fois, quand il y a le soleil qui se lève comme ça, puis tu as vraiment la chaleur du soleil qui sur tout ton corps, tu dis « Waouh !» tu tressailles. Et un jour, j'étais justement dans ce moment-là en disant « Ok, là, j'écoute, Seigneur, parle. » J'avais l'impression que Dieu me dit, tu es mon fils bien-aimé. Waouh, je me suis dit, oula Philippe, tu commences à t'attribuer des paroles de Dieu sur son fils. J'essayais finalement, hein, très vite, intellectuellement, de te dire, non, mais écoute, là vraiment, tu es en train de déconner. Puis ça revenait tout le temps, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé. Jusqu'à ce que finalement, je puisse accepter aussi de se dire, ben c'est vrai, que Dieu me le dit. Ben d'une part, parce que ben il est dit que nous faisons partie de la famille de Dieu, hein, qu'on est racheté, qu'on a un esprit d'adoption. Donc, puisque Dieu est mon père d'adoption, eh ben il peut me dire, tu es mon fils bien-aimé. Waouh, je vous dis pas, hein, le jour, tu voles presque, hein, après. Mais c'est justement, je pense, dans ces moments-là aussi. Hein. Donc, moi, j'adore justement dans les exercices physiques, vous verrez les autres. Hein, c'est toujours lié un peu avec la bougeotte. Donc, à voir, pour moi, ça fonctionne plutôt aussi comme ça. On verra si tout d'un coup, on devient tous des accros de la course à pied ou autre. Non, mais voilà. Mais c'est d'être, comment tu es. C'est simplement de créer finalement l'occasion à Dieu de pouvoir te parler en prenant finalement ce moment de pause. Et puis, comment est-ce que je peux peut-être apprendre aussi à m'arrêter? Alors, il existe différents moyens qui peuvent peut-être t'aider à toi aussi d'essayer. Tu peux peut-être écouter une musique et te concentrer sur la musique. Alors, idéalement, ce serait sans paroles, parce que dès qu'il y a des paroles, ben, c'est clair que les pensées, elles commencent de nouveau à turbiner. Mais peut-être juste d'écouter une musique, d'écouter, de ressentir, mais qu'est-ce qu'elle fait en toi, cette musique? Alors c'est clair, si tu écoutes ça sera peut-être un peu plus difficile de trouver du calme qu'une musique plus douce. Mais tu peux, par exemple, aussi juste te concentrer sur ta respiration. Ce qu'il est, il est prouvé, en fait, si tu te concentres sur ta respiration, ben, tu n'arrives pas à faire autre chose. Donc, c'est beaucoup plus difficile, en fait, de penser à autre chose. Donc, tu te concentres sur toi, et puis ça te permet justement d'essayer d'évacuer ces idées qui pourraient revenir. Puis après, ben voilà, s'il y a une fois une idée qui revient, il faut surtout pas non plus t'accuser, dire « Ah, mais moi, j'y arrive pas », c'est simplement dire « Ok, j'ai eu cette idée, je la mets de côté, maintenant, je me reconcentre. » Tu peux peut-être aussi aller te balader dans la nature et puis de se dire « Ben maintenant, je veux faire attention à la nature, aux fleurs, je veux contempler les fleurs, les regarder un peu plus près » ou « Voilà, tu croises peut-être un oiseau, quelque chose comme ça. » Donc, d'être vraiment dans l'observation, ça aide à te recentrer aussi sur toi. Et puis, il y a d'autres personnes qui font, par exemple, qui mettent quelquefois dans la journée leur réveil. Et puis, c'est quand le réveil qui sonne, c'est tout d'un coup de se dire « Ok, je fais quoi là maintenant? Est-ce que je suis en train de turbiner à gauche, à droite, tatatac, et puis de faire n'importe quoi ?» Puis juste se dire bah, « Je reprends juste le moment de me reconcentrer, de me centrer de nouveau sur ce qui se passe autour de moi et d'être attentif à cela. » Donc, apprendre à s'arrêter. Puis finalement, comment est-ce que l'esprit parle? Comment l'esprit utilise comment l'esprit nous parle? Et là, j'aimerais lire avec vous dans Actes 10, les versets 1 à 21. J'ai pris effectivement un long passage, comme ça, non, je plaisante. Alors, c'est une histoire que vous connaissez, c'est celle de la conversion de Corneille. Donc, en acte 10, verset 1, « Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui, et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et après, vous connaissez hein, toute la suite. Et je reprends au verset 17. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, nommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez, quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Donc là, il y a vraiment plein de manifestations, de manières dont l'Esprit a parlé à ces hommes. Il a parlé qu'il y a des voix, donc on entend, des gens qui entendaient de manière audible des instructions du Seigneur. Pierre, il a dit qu'il a eu une extase. Alors ça veut dire quoi l'extase? Alors, là, c'est là que je suis allé notamment ouvrir le dictionnaire hein, aussi. Donc l'extase, c'est comme d'avoir une impression d'être sorti, ou je ne sais pas comment dire, comme sortir quelque part de soi, hein, d'une réalité. Donc c'est comme se sentir finalement un peu différent. Donc c'est de se dire, waouh! Alors là, c'est vrai, des fois, notre esprit cartésien pourrait dire, ah ouais, mais est-ce que c'est encore juste aujourd'hui? Hein, l'extase, parce qu'il y a vraiment quelque chose, s'il y a bien quelque chose d'irrationnel, ça, c'est sûrement l'extase. On parle aussi de vision, hein, Corneille qui a vu un ange, Paul qui s'interroge justement sur cette vision. Et je me suis aussi posé la question, mais en fait, ces hommes, ils faisaient quoi? Alors Corneille, on ne sait pas trop. On sait que c'était la 9e heure. On ne sait pas s'il était en train de prier ou quoi, mais en tout cas, tout d'un coup, il a une vision. Donc, peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas important ce que tu es en train de faire. Dieu peut te parler, même si tu n'es peut-être pas en train de prier à un moment donné. Pierre, on pense qu'il avait prié, il avait faim. Alors, est-ce que la faim, ça aide peut-être aussi, hein, peut-être avec le jeûne, prière, je pense, c'est aussi des choses qui peuvent libérer l'esprit pour nous parler. Mais encore une fois, c'est possible. Mais il ne faut pas le faire, à mon avis, le faire pour le faire, encore une fois. C'est vraiment de comment l'Esprit te parle. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce passage, c'est que les deux hommes, après cet instant-là, ils sont entrés en action. Ils n'ont pas, entre guillemets, réfléchi longtemps. Corneille, il a appelé ses serviteurs, il les a envoyés aller me chercher cet homme. Pierre, il est descendu. Il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il y a trois hommes qui sont là. Il est descendu, il a dit, « Me voici ». C'est à quel sujet? Il n'a pas commencé. Alors il réfléchissait, il turbinait, il comprenait pas. Mais Dieu lui a dit, il y a trois hommes qui sont là, vas-y. Et il est allé. Et je pense qu'il y a là aussi une clé, c'est lorsque l'Esprit te parle, c'est d'y aller après. Un petit exemple, c'était ce printemps une fois, en train de courir. Alors, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je fais pas mal de courses à pied, en tout cas quand j'ai le temps. Et puis, dans un moment, j'avais à cœur de prier pour quelqu'un. Donc je cours, alors c'est vrai qu'en règle générale, pour courir, on n'a pas besoin trop de réfléchir. Et puis je crois que l'effort physique, ça aide aussi. Certains disent, ouais, mais tu te shootes à la dopamine. Mon corps est fait comme ça. Mon corps a été fait par le Seigneur, donc je pense que s'il nous a donné la dopamine... Il y a aussi. Après, est-ce que je cherche la dopamine pour la dopamine? On peut en discuter. Ça, je pense pas, mais voilà, c'est cet élément-là. Te dire, mais voilà, je priais. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une pensée pour cette personne pour laquelle je priais. Puis, je me suis dit, ouais, non, mais attends. Franchement. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'esprit? J'ai douté, comme on peut à juste titre douter. Et puis, j'ai fini ma course, Puis finalement, je me suis dit, non, mais je suis obligé de le faire, parce qu'autrement, soit je me trompe royalement, et puis la personne, je pars du principe qu'elle est aussi suffisamment sage pour voir que je me suis trompé. Et puis, si je le fais pas, finalement, je m'oppose à Dieu d'une certaine manière. Donc, je lui ai envoyé un SMS en disant, écoute, voilà, j'ai l'impression que, ou j'avais ça sur le cœur, je te le donne, t'en fais ce que tu veux. La personne en a fait ce qu'elle en veut. Alors c'est vrai, je crois que sur le moment, elle a été un peu surprise aussi du contenu, mais plus tard, elle m'a dit, mais écoute, voilà, j'ai compris quelques jours ou semaines après ce que tu voulais me dire, et puis ça m'a aidé. Donc, parfois, c'est vrai que il faut prendre ce risque aussi, se dire, ben voilà, j'y vais, parce que je crois que c'est nécessaire, c'est important. Je prends un autre passage dans la Bible, c'est Ézéchiel 8. Ézéchiel, moi je trouve que c'est fabuleux quand on le lit, de dire ce qu'il a vécu. C'est impressionnant, ça fait, je ne vais pas dire froid dans le dos, mais ça donne d'une certaine manière envie. Hein. Donc comment lui est-ce qu'il décrit que l'Esprit lui a parlé? Donc, Ézéchiel 8, 1 à 8. Il arriva que la sixième année, le 5 du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi. Je regardai et voici une apparition qui avait l'aspect de feu. Du feu à partir de ce qui semblait être ses reins et jusqu'en bas et une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du nord, où était l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là avec l'aspect sous lequel je l'avais vue dans la vallée. Il me dit, Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord. Et voici cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes horreurs. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardai, et voici un trou dans le mur. Il me dit, Fils d'homme, creuse le mur, je creusai le mur, et voici une ouverture, et ainsi de suite. Waouh! Hein, qu'est-ce qu'il est dit? Comment il est dit, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi, me saisit par la chevelure, me transportait entre ciel et terre. Waouh! Alors c'est peut-être une expression, je ne sais pas ce qu'il a ressenti exactement, mais c'est fort quand l'Esprit parle. Je reprends un autre petit exemple. Alors, toujours en course à pied. Alors, vous allez me dire, machin. Mais une fois, je suis sorti, j'avais quelque chose, une grande décision à prendre. Et puis, j'avais de la peine à la prendre. Alors, je suis parti courir. Et puis, pendant toute la course, je réfléchissais, mais j'étais effectivement concentré sur cet élément. Et finalement, tout au long de la course, ou en tout cas, la fin de la course, je savais ce que je devais faire. Quelque part, pour moi, c'était clair quelle décision je devais prendre. Mais le plus surprenant, c'est quand je suis arrivé à la maison, puis que je regarde, vous savez, j'ai ces montres, la GPS qui regarde par où tu passes, etc. Donc je regarde par où je suis passé, et je ne me souvenais plus, en fait, par où j'étais passé. Alors je me souviens de deux endroits, aux deux endroits, j'ai croisé des cyclistes. Donc c'était deux endroits où je suis sorti, je pense, de ce moment-là, mais autrement, je ne me souvenais plus par où j'étais passé. Parce que je pense, j'étais effectivement, alors dans mes réflexions, mais je pense aussi dans cette interaction avec Dieu en disant, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça va, waouh! Alors encore une fois, Dieu te demande peut-être pas de faire 10 km, hein, de course à pied ou comme ça. Moi, je sais que, voilà, pour moi, c'est des moments où je peux justement avoir cette intimité avec Dieu. Puis pour terminer, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment l'Esprit? Je te dirais, je n'en suis pas toujours sûr. parce que moi je suis quelqu'un aussi qui ça turbine, hein, aussi j'ai envie de dire, sans forcément l'esprit de Dieu, j'ai beaucoup d'idées en règle générale et tout, ben, je ne le sais pas, mais je crois qu'il y a certaines choses à apprendre, c'est peut-être aussi de faire confiance à Dieu. Moi, ce que je te propose, ben, c'est quand tu as peut-être une pensée pour quelqu'un, une image qui te vient, note-la déjà pour t'en souvenir. Et puis, comme deuxième étape, c'est celle d'examiner. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 22, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Donc ton image, c'est peut-être juste aussi ou la pensée que tu as, la faire passer finalement par le tamis de la parole de Dieu. C'est clair que si elle te demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, oublie vite, jette-le à la poubelle. Mais si ça le confirme ou la Bible confirme, à ce moment-là, je pense que c'est une piste que tu peux prendre, que c'est Dieu, qui est l'Esprit de Dieu qui te le révèle. C'est un peu comme je vous parlais tout à l'heure, hein, quand j'ai entendu vraiment « tu es mon fils bien-aimé », au moment donné, je me suis dit « non, attends, là, tu es en train de… hein ». Ben non, c'est de se dire « non, c'est marqué dans la Bible que je suis, je suis adopté par Dieu ». Donc cette parole, je peux la prendre pour moi, je peux la saisir pour moi. Et je crois qu'il y a un autre élément qui peut nous aider, c'est la question, est-ce que ton cœur brûle quand tu entends ces paroles ou que tu vois ces images? Et là, ben, j'aimerais juste lire aussi un passage que vous connaissez très certainement, ce sont les disciples d'Emmaüs, donc dans Luc 24... Tac, tac, tac. Voilà, oui.
Est-ce que notre Père ne connaît-il pas ?
Tout à fait. Hein, donc, Luc 24, il est dit, donc au verset 30. Non, je suis... C'est dit, tiens, j'ai une autre version que tout à l'heure. 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Moi je crois qu'il y a des manifestations physiques, si j'ose le dire comme ça aussi, quand Dieu nous parle. Donc, sois sensible aussi à ces éléments-là. Donc, est-ce que ton cœur brûle? Pour moi, c'est une manière d'identifier justement aussi que Dieu est en train de te parler. Pour terminer, j'aimerais juste passer à un exercice pratique, si vous êtes d'accord. C'est qu'on va faire silence, à un moment donné, devant Dieu. On va essayer justement de maîtriser, si j'ose le dire comme ça, nos pensées. Et puis, que tu demandes, on va commencer par un exercice simple, c'est simplement de demander à Dieu, Papa Céleste, comment est-ce que tu me vois aujourd'hui ? Comme ça, ça n'implique pas encore les autres. On va dire ça comme ça. Alors, il est possible que tu vas ressentir quelque chose, tu vas peut-être voir quelque chose, tu vas peut-être entendre quelque chose. Alors, tu n'as peut-être pas de quoi noter, donc essayez au moins de l'enregistrer, puis de le noter peut-être tout à l'heure à la maison, pour que tu puisses l'examiner, le cas échéant. Et puis peut-être aussi de voir ou de ressentir, est-ce que ton cœur y brûle par rapport à ce qui se dit. Ok, alors je propose qu'on fasse silence. Alors c'est vrai, je t'invite vraiment à déconnecter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux, si tu veux, te concentrer sur ta respiration. Puis si t'as, ben voilà, ta pensée qui repart, ben tu la laisses de côté, tu reviens sur le moment présent. Et puis là, ben tu demandes à ton Papa Céleste comment est-ce qu'il te voit. Papa Céleste, comment tu me vois aujourd'hui? Oui, Papa Céleste, moi, je veux te dire merci. Merci parce que tu es mon papa. Puis merci parce qu'avec ton esprit, tu me permets de saisir, en fait, quelque sorte, ta paternité, ta relation avec moi. Alors, Seigneur, j'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs. Te demander, Seigneur, ben tu confirmes dans leur cœur ce que tu leur as partagé ce matin. Que Seigneur, tu confirmes dans leur quotidien ce que tu leur as révélé ce matin. Merci, Seigneur, de bénir chacun, chacune, Seigneur. Amen. Puis j'aimerais juste te dire si tu n'as rien entendu, rien vu, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Dieu t'aime. Et puis que, bah parfois, faut juste un peu d'exercice, peut-être de refaire. Si tu as besoin de temps en temps, dans un moment peut-être de tranquillité, de reposer la question et d'être attentif à ce que l'Esprit te révélera du Père. Amen.